Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
La Bible est source d'espérance et elle nous enseigne la sagesse. Mais que nous apprend-elle au sujet du mariage? Et quelles devraient être dans ce cadre-là les relations entre les hommes et les femmes?
Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le mariage.
Nous parlons donc du mariage, de cette relation privilégiée, vécue entre un homme et une femme. Avec Antoine et Arnaud, nous cherchons à comprendre ce que la Bible dit à ce sujet et quelles sont les leçons à en tirer pour aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Yann.
Bonjour à tous.
Alors, quel est notre point de départ aujourd'hui?
Nous allons nous pencher sur un texte biblique qui parle du mariage et qui exhorte les maris à aimer leurs femmes et les femmes à se soumettre à leurs maris. L'étude s'étalera sur deux émissions et nous commencerons avec l'exhortation qui s'adresse aux femmes, leur parlant de la soumission envers leur mari.
Ce sujet est important et il est souvent mal compris et peut malheureusement conduire à des abus et à la maltraitance.
Tout à fait. Écoutons d'abord le texte dont il est question. Il s'agit de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 30.
« Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ fait pour son Église. Que chaque mari aime donc sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari.
Antoine, vous avez dit que ces versets exhortant les femmes à se soumettre à leur mari peuvent amener à des abus. Pouvez-vous vous expliquer?
Nous constatons que les hommes ont facilement tendance à dominer leurs femmes. Ils sont non seulement physiquement plus forts, mais la société et le poids de la tradition maintiennent cet état de choses. Ainsi, les hommes peuvent utiliser ce verset qui dit « que la femme se soumette en toutes circonstances à son mari » pour justifier une domination abusive et tyrannique. Certains maris pensent que leur femme leur doit une obéissance aveugle et ils la réduisent quasiment à l'état d'esclave. Or, cela ne correspond pas au dessein de Dieu pour la femme.
En effet, il faut condamner la maltraitance vécue dans la famille ou ailleurs. Cependant, la Bible dit qu'une femme doit se soumettre à son mari. Comment donc comprendre ce verset? Arnaud, pouvez-vous répondre à cette question?
Il est intéressant de noter que, selon l'apôtre Paul, les femmes doivent se soumettre à leur mari de la même manière que l'Église se soumet à Christ. Alors nous devons nous demander, est-ce que Christ est un chef autoritaire et tyrannique? Comment Jésus-Christ considère-t-il celui qui espère en lui? Exerce-t-il son autorité sur lui comme un dictateur opprime et exploite son peuple? À toutes ces questions, nous pouvons répondre non. Jésus-Christ est rempli de compassion et de miséricorde. Il exerce son autorité non pour écraser mais pour relever, non pour parvenir à des fins égoïstes mais pour servir ceux qu'il aime. Et si Jésus, dans sa parole, la Bible, nous montre le chemin à suivre, s'il nous donne des conseils ou des recommandations à respecter, c'est parce qu'il désire notre bien.
Mais quel est le rapport avec notre sujet, la soumission?
La soumission envers le Seigneur Jésus, qui est empli d'amour envers nous et à nos intérêts à cœur, n'est absolument pas une soumission aveugle ou angoissante, comme envers un maître tyrannique. Nous obéissons à Jésus parce que nous savons que ses paroles sont sages et qu'elles donnent la vie. Par contre, si nous obéissons à un tyran, c'est à contre-cœur et parce que nous le craignons. La soumission envers Jésus peut être comparée à celle d'une brebis qui suit son berger. La brebis le suit toute confiante, même sur les chemins parsemés de difficultés, car elle sait qu'il l'amènera là où elle trouvera de l'eau et de la nourriture en abondance.
Nous avons donc parlé de la relation entre l'Église et le Seigneur Jésus. Mais comment mettre ces pensées en pratique dans nos vies de couple?
Le texte que nous avons lu s'adresse aussi bien au mari qu'à leur femme. Il nous apprend que le mari est le chef de la femme. Alors celui-ci devrait se demander « Comment agir en tant que bon chef ?» Et la réponse à cette question se trouve dans les versets cités plus loin. Il doit avoir pour modèle Jésus-Christ, qui a aimé l'Église, et à son exemple, il doit aimer sa femme. Ainsi, il est plus facile pour une femme de respecter et suivre son mari, et même de lui obéir, s'il agit envers elle comme un chef aimant, car elle peut lui faire confiance, sachant qu'il veut son bien et qu'il agit envers elle avec sagesse. Elle peut se soumettre à lui volontairement, désireuse de réaliser avec lui des projets.
Vous avez évoqué le cas du mari qui respecte l'enseignement biblique pour agir en bon chef. Mais qu'en est-il quand le mari refuse d'écouter les bons conseils de la Bible et persiste à maltraiter sa femme?
On peut, dans un premier temps, chercher à raisonner les maris qui tyrannisent leur famille. Malheureusement, il arrive que ces personnes s'opposent aux exhortations à faire le bien et elles deviennent plus désagréables ou plus violentes encore, contraignant leurs femmes à se soumettre à eux par la force, ce qu'elles font, afin d'éviter le pire.
Mais si un mari oblige sa femme à faire quelque chose en contradiction avec les commandements de Dieu, que faire dans une pareille situation?
La Bible enseigne qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et si une personne nous pousse à désobéir à Dieu, nous sommes en droit de ne pas céder à sa volonté. Je comprends toutefois qu'il est difficile de résister à un mari qui peut avoir recours à la violence pour contraindre sa femme à l'obéissance.
Et quel espoir Jésus apporte-t-il dans un tel contexte?
La Bible dit qu'il faut lui faire confiance et continuer à espérer en lui, car en son temps, il interviendra, soit pour changer des personnes, soit pour changer des circonstances.
Les femmes maltraitées devraient, si cela est possible, chercher de l'aide auprès d'une personne de confiance, soit au sein de la famille, soit au sein d'une association. Ces femmes ont besoin d'être soutenues et réconfortées, elles ont besoin de bons conseils, et nous devons être prêts à leur venir en aide quand elles font appel à nous. Toutefois, beaucoup de ces femmes sont très isolées par ce qu'elles vivent et ne peuvent trouver de l'aide. Cependant, le Seigneur est tout-puissant, il est compatissant et miséricordieux, il voit la souffrance de ceux qui ploient sous de pesants fardeaux. Sa parole peut les consoler et accorder la sagesse à ceux qui sont affligés. En son temps, il défendra ceux qui espèrent patiemment en lui et il interviendra en leur faveur.
Nous remercions Arnaud et Antoine pour leur participation et reprendrons nos discussions la prochaine fois. Dans un instant, Jean-Marc va poursuivre ses méditations sur Christ et son amour pour nous. Mais d'abord, Hélène va lire dans Éphésiens chapitre 3, les versets 17 à 19.
Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé, et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu.
Nous allons jeter un regard sur l'amour de Jésus-Christ et parler de la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de cet amour. Pourquoi ? Parce que plus nous comprendrons l'amour de Christ dans toutes ses dimensions, plus nous tiendrons fermes et forts dans la vie, avec son lot de difficultés et d'épreuves. C'est en saisissant la pleine signification de l'amour de Christ que nous deviendrons comme des arbres bien enracinés qui résistent aux tempêtes, aux ardeurs de la sécheresse. Nous deviendrons également comme des maisons construites sur de bonnes fondations qui demeurent solides et restent debout, même secoués par le pire des tremblements de terre. Commençons avec la largeur de l'amour de Christ. Qu'évoque cela pour vous ? Pour moi, cela évoque Christ qui ouvre large ses bras pour accueillir toutes sortes de personnes et qui offre les bienfaits de son amour et de son évangile à tous, sans exception. Il suffit de lire les évangiles pour constater la vérité de ses propos. Christ a aimé les riches, les puissants et les influents, même s'il devait dénoncer leurs torts. Il a aimé des personnes faisant partie de l'élite religieuse et politique. Il a dîné avec Simon le pharisien, par exemple, et il a aussi guéri la fille d'un officier militaire romain, citoyen de la puissance d'occupation. Quel amour envers un ennemi du peuple ! Jésus a également passé beaucoup de temps avec les gens du commun, riches ou modestes, et aussi avec ceux qui se trouvaient en marge de la société, exclus pour des diverses raisons. Par amour, Jésus a accordé la guérison et la purification aux lépreux, la délivrance aux personnes qui se trouvaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Il a rendu la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds. Jésus aimait les gens intègres et pieux, comme ceux qui avaient sombré dans l'inconduite et l'immoralité, les prostituées, les collaborateurs, les escrocs, les impies. Il leur adressait à tous un message d'espoir, offrant le pardon et la réconciliation avec Dieu à ceux qui mettraient leur foi en ses promesses. Jésus a aimé des gens de races et de nationalités différentes. Sa mission et son amour ont dépassé les limites de la nation d'Israël pour atteindre des personnes venant de tout pays, des Romains, des Grecs, des Samaritains, des Phéniciens et encore. Qu'ils fussent hommes ou femmes, enfants ou personnes âgées, bien éduqués ou non, tous rencontraient en Jésus un message de salut et un amour qui correspondait exactement à leur attente. Jésus n'a pas changé. Et aujourd'hui, quelle que soit votre origine, votre condition de vie, votre passé, Jésus vient vers vous pour vous offrir son amour. Un amour qui accueille, qui sauve et qui garde.
Merci Jean-Marc de nous avoir rappelé la beauté de l'amour de Christ. Personne ne peut dire « Jésus ne peut m'aimer parce que je viens d'un pays différent ou parce que je suis ainsi fait ». La seule chose qui nous sépare de l'amour de Christ est notre péché. Or, chacun a la possibilité de le lui confesser, afin de recevoir auprès de lui son pardon et de bénéficier de toute la plénitude de son amour.
Pour en apprendre davantage sur le mariage, d'un point de vue biblique, et sur l'amour de Dieu pour les siens, nous vous invitons à écouter notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.